Alors, j'aimerais partager avec vous justement donc dans l'évangile de Romains chapitre à l'évangile Romains, c'est pas l'épître aux Romains chapitre 1. C'est un verset que vous connaissez tous, même mémorisé, je pense. Et c'est le verset 16. Et d'abord juste un peu sur le contexte de ce verset, Romains chapitre 1 verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est presque un verset parallèle à Jean 3,16, n'est-ce pas? Et c'est dans l'Épître aux Romains, et l'apôtre Paul ici parle aux Romains, justement, qui n'avaient pas encore entendu l'Évangile à ce moment-là. Et donc d'abord, le mot Évangile, c'est un mot ancien, en fait, plus ancien que le Nouveau Testament. Parce que dans le grec ancien, il veut dire nouvelle simplement. C'est quand on annonce une bonne nouvelle. Donc c'est une récompense. En fait, on récompensait celui qui apportait une bonne nouvelle. Et donc ça s'appelle Evangelion. Et après, c'est devenu aussi un mot latin plus tard, parce que c'était un mot qui était souvent utilisé pour les messagers, etc. Donc ceux qui apportaient des messages de bonnes nouvelles, eh bien, on appelait ça l'évangile, Evangelion. Et là, dans ce contexte, justement, il parle de puissance de Dieu. Et j'aimerais qu'on parle un peu, justement, de qu'est-ce que la puissance de Dieu. Et souvent, on regarde un peu dans notre quotidien, etc. On entend parler de puissance, etc. Mais c'est tout un autre contexte. Et donc, il faut bien distinguer ce que la puissance selon l'Évangile et la puissance autre dans le monde. Donc, juste pour bien séparer ces deux choses, et ensuite entrer dans le verset lui-même, et puis garder en esprit la puissance selon l'esprit, selon la parole de Dieu, et non pas selon le monde. Donc on va regarder donc l'évangile de puissance, c'est qu'est-ce que la puissance. Ensuite, l'évangile du salut, il parle du salut, l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il y a un lien entre cette puissance de Dieu et le salut. Et ensuite, l'évangile est un évangile universel, hein, pour le salut de quiconque croit, juif, grec, etc. Donc toutes les nations. Donc c'est un évangile de salut, un évangile de puissance et un évangile universel dans ce verset 16 ici. Bien sûr qu'on trouve aussi dans tous les évangiles cet évangile prêché par Jésus-Christ lui-même et démontré aussi par la puissance de ses actions, par la puissance de ses paroles, par la puissance de ses miracles, etc. Donc ce n'était pas simplement des paroles, simplement des miracles, mais c'est tout en entier. Et c'est cet évangile-là que Dieu nous offre, que nous donne, et quand nous le recevons tout aussi. Et donc, pas seulement le salut, mais aussi la puissance qui va avec. Et donc, cette puissance, c'est celle qui nous rend capables de vivre justement selon les évangiles. Donc, d'abord, il y a, selon, donc, pour définir juste brièvement le terme puissance. Donc, dans la physique, la puissance fait référence à la force, à l'intensité, à l'énergie, etc. Donc, on mesure l'énergie, vous voyez ce terme souvent, soit dans la physique, dans les maths, etc. Souvent, le moyen de mesurer l'intensité, la force, l'énergie. Donc, c'est un peu en général dans nos sociétés, dans nos langues, c'est un peu la définition qu'on entend quand on dit puissance. On pense à ce genre de puissance physique. Mais la puissance dans l'Évangile fait plus référence justement au fait d'être à la transformation intérieure à l'image de Christ. Et on voit cette puissance en fait se manifester plus dans la faiblesse physique justement. Et donc c'est pour ça que Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est pas, il n'y a aucun lien entre la puissance physique ou autre, intellectuelle, quelle que soit la puissance qu'on peut définir justement par rapport à la puissance de l'Évangile. qui est complètement indépendante de cette puissance physique et qui est l'intensité, la quantité d'énergie qu'on peut avoir. Et donc, on voit bien que cette puissance, en fait, elle est rattachée plus à Dieu, à la personne de Dieu lui-même, parce que on reçoit cette énergie-là de Dieu, par notre attachement à Dieu. C'est pour ça que celui qui est en Christ, eh bien, il a cette puissance dont il parle ici, la puissance de Dieu pour le salut. Et donc, il n'est pas du tout lié à la puissance physique ou énergique. Donc, à travers toutes les épîtres, d'ailleurs, on voit bien que cette puissance se manifestait. D'abord, l'apôtre Paul lui-même, qui a écrit plusieurs de ses épîtres, était en prison. Et donc, on voit la force, la puissance qu'il a pu être dégagée par l'intermédiaire, justement, comme Dieu l'a utilisé comme apôtre. Mais cette force qui a pu, cette puissance qui est de l'Évangile, qui a pu disséminer l'Évangile, implanter des églises partout dans ce monde à cette époque, alors que lui-même était faible, même ceux qui le voyaient physiquement, ils étaient un peu étonnés parce qu'ils voyaient, ils entendaient bien la puissance de ses paroles, mais il y avait une sorte de paradoxe quand ils le voyaient physiquement, ils ne dégageaient pas cette puissance-là. Et c'est là où on voit justement le mystère de l'Évangile, parce que la puissance de l'Évangile est en Christ lui-même. Donc, par rattachement à Christ, on a cette puissance parce qu'on la reçoit. Mais donc, il n'a rien à voir avec la partie, justement, apparence physique, etc., tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme moyen de juger les gens, la personne. Et donc, Paul lui-même est un exemple, je pense, qu'on peut regarder dans sa faiblesse physique, dans sa faiblesse aussi, le fait qu'il était prisonnier. Eh bien, il a pu avoir un ministère au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que la puissance de Dieu s'est manifestée à travers ses paroles, malgré toutes les contraintes auxquelles qu'il avait subies à ce moment. Dans l'évangile de salut, parce qu'il parle de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut, bien sûr, est dans le cœur des évangiles. Vous voyez, donc Jésus a prêché la conversion, la repentance, le baptême, enfant de Dieu. Donc, il y a une conversion qui se fait, il y a une nouvelle naissance. Donc, c'est quelque chose de nouveau, en fait, parce que tous les religieux à l'époque n'avaient pas du tout compris ce que veut dire cette nouvelle naissance, d'être une nouvelle création. Et donc, c'est pas seulement un changement intérieur et extérieur, etc., mais c'est une nouvelle création. Donc, cette nouvelle création se fait justement, c'est une œuvre spirituelle que Dieu fait en nous. Et donc, cette nouvelle personne, l'homme intérieur, ce n'est pas la partie visible de la personne, mais c'est cette partie-là que Dieu transforme par l'Évangile. Et quand Jésus parle de la mort, souvent, donc, il parlait donc, de la mort, il faisait référence à la mort spirituelle, c'est-à-dire à la séparation avec Dieu, à cause du péché, et donc il y a une séparation, Dieu est saint, et l'homme pécheur, et le péché ne peut pas coexister avec Dieu. Et donc il y a une séparation qui ne peut pas être comblée sans Christ. Et quand il parle de la mort, d'ailleurs, donc il fait référence toujours à cette mort spirituelle, alors que ses auditeurs pensaient à la mort physique, hein, comme nous d'habitude. Donc quand on parle de la mort, on pense surtout à cette mort physique. Et même quand Lazare était malade, vous vous souvenez, plusieurs étaient venus lui dire, Lazare qui était un ami de la famille, enfin Jésus était un ami très proche de la famille Lazare, de Marthe, Marie, etc., et donc, il pensait sûrement, lui qui a guéri tous les malades sur les chemins, etc., il fera ce qu'il faut pour aller tout de suite vers Lazare, à Béthanie, pour faire le miracle et le guérir. Et Jésus, non, il a retardé le voyage, il est resté quelques jours plus tard. Et puis, on lui apporte la nouvelle que Lazare Enfin, c'est plutôt lui qui a dit aux disciples que notre ami Lazare dort. Et donc, et pensez encore au sommeil physique. Et donc, c'est cette, encore une fois, ce décalage. Et quand on a, quand on est, on lit les évangiles, eh bien, comprendre le mot puissance, comprendre le mot salut dans leur contexte et comprendre les évangiles dans leur contexte. Parce que Jésus, clairement, il parlait pas du sommeil, il parlait que Lazare était dans la tombe déjà. Et il leur a dit encore en leur langue, Lazare est mort. Et donc après, ils ont compris en fait qu'il était physiquement mort. Et donc, et plus tard, vous connaissez cette histoire, Jésus a ressuscité Lazare avec simplement cette parole, Lazare sort. Et Lazare est sorti sans être délié, etc., jusqu'après être sorti plus tard. C'est ça vraiment l'image du salut de l'Évangile. Quand il parle de la puissance de Dieu pour le salut, pensez à la résurrection de Lazare. Lazare sort. Et donc pour nous de même, Dieu nous a appelés alors que nous étions morts dans nos péchés, et morts dans la chair. Notre esprit était complètement... il n'y avait aucun contact avec l'esprit de Dieu. Et puis Dieu, soudain, et comme on a lu, le frère a lu tout à l'heure, la miséricorde de Dieu, mais Dieu, plein de richesses et de bonté, eh bien, il nous a appelés de la mort à la vie. Donc c'est l'évangile, le salut dont il parle ici, c'est une résurrection d'entre les morts. Dieu nous a ressuscité notre esprit de la mort. Et par cela, il nous a mis en communion avec son esprit. Et donc maintenant, nous sommes en communion avec l'esprit de Dieu. Et c'est cette puissance de Dieu qui anime notre pensée, nos actions et toutes nos autres valeurs, ce qui définit vraiment notre vie quotidienne. Et c'est pour ça, donc, dans Éphésiens 2, encore une fois, qu'on a lu tout à l'heure, nous étions tous morts, séparés avec Dieu, mais Dieu, plein dans sa richesse, eh bien, il nous a rappelés et il nous a non seulement sauvés, mais il a préparé pour nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc le salut, en fait, c'est tout cet ensemble. C'est Dieu qui nous a appelés de la mort à la vie. C'est Dieu qui, par la communion avec son Esprit Saint, nous a transformés, transforme notre intérieur donc, à son image, de gloire en gloire. Et bien donc, cette transformation se fait par la puissance de Dieu. Et dans notre... Et si vous, peut-être, vous regardez, si vous êtes enfant de Dieu depuis un nombre d'années, et donc regardez un peu le cheminement que Dieu a fait dans votre vie, et donc vous verrez, parce que souvent, dans le moment, on ne se rend pas compte, mais on se rend compte sur une longue durée, comment Dieu a vraiment transformé notre vie, transformer nos pensées, nos actions. Et tout cela, en fait, c'est le fruit de l'évangile du salut. Donc, le salut qui vient, non pas parce que nous avons simplement confessé des paroles, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu lui-même est venu et il nous a appelés de la mort à la vie. Et nous sommes devenus son habitation en esprit. Et donc, il y a une toute autre vie qui commence, une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. C'est une nouvelle création même de Corinthiens. Il parle de cette nouvelle création que nous sommes. Et donc, nous ne sommes plus donc les anciennes créatures, mais une nouvelle création. Donc, il y a une transformation qui se fait dès cette nouvelle naissance. Et donc, Dieu, notre voyage spirituel justement commence à ce moment-là avec sa transformation qui se fait de gloire en gloire, c'est-à-dire que Dieu fait une œuvre de sanctification en nous et souvent et ce n'est pas par les efforts personnels etc. que Dieu fait ça, mais il le fait en nous, c'est-à-dire c'est sa puissance à lui qui fait cette transformation. Donc, l'évangile de salut et maintenant l'évangile de puissance. Donc, on a lu tout à l'heure donc un paradoxe qu'on trouve seulement dans les évangiles, c'est que la puissance de Dieu s'accomplit souvent dans la faiblesse. On a tellement de témoignages dans la Bible et en dehors de la Bible aussi des témoignages de la puissance de Dieu qui se fait dans la faiblesse et dans l'humilité et parfois aussi dans les détresses aussi de la vie. Et donc Dieu utilise ces moments-là pour notre sanctification. Et donc Dieu ne châtie pas ceux qu'il n'aime pas, mais il châtie ceux qu'il aime et il fait passer par les épreuves ceux qu'il aime, les enfants qu'il aime. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de sanctification, de voir cette dépendance en Dieu, en nous, qui grandit, et cette dépendance de moins en moins en nous-mêmes. Donc la puissance est démontrée dans les évangiles aussi, donc par les paroles de Jésus lui-même, quand il a parlé même ceux qui étaient les religieux par exemple, qui étaient très hostiles à son message, souvent ils ont dû reconnaître qu'il avait une parole de puissance. Aucun homme n'a parlé comme cet homme, donc celui qui est allé pour essayer de poser une question piège, eh bien, il est concernant l'impôt à César, etc. Eh bien, il a vu, donc il a témoigné dans un sens aux autres responsables, chefs religieux, qu'il n'y avait aucun homme qui a parlé comme Satan. Il avait une puissance de parole et donc qui a dans un sens confondu ses adversaires. Et Dieu nous donne aussi cette possibilité-là parce qu'il nous a animés du même esprit dont Jésus lui-même est animé. Et donc, c'est pour ça que nous devons être prêts à donner la raison de notre foi à tout moment quand nous sommes dans cette situation où il faut donner raison. Et Dieu, ce n'est pas nos paroles à nous, pas nécessaire de mémoriser un texte répété, mais bon, c'est bien de mémoriser surtout la parole de Dieu, mais c'est nécessaire d'être prêt à tout moment. Comme les vérités fondamentales qu'on a lues tout à l'heure, d'être prêt à les répéter, à répondre, tout simplement. Parce que parfois, une question simple peut être difficile à répondre. Donc, elle est très simple pour nous, mais quand il faut l'exprimer, eh bien, c'est très difficile à l'expliquer, surtout si on se met à la place des autres qui nous écoutent. Quel mot est-ce que je dois utiliser? Parce que ce n'est pas évident. Et donc, c'est pour ça que la parole de Christ en nous, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance nous donne justement les paroles, il nous donne les pensées qui permettent, comme Jésus l'a fait avec tous ses auditeurs et tous ses adversaires à l'époque qui étaient là, et donc qui ont posé des questions, et parfois des questions avec des mauvaises intentions, etc., juste pour confondre et créer la confusion parmi les disciples et parmi les autres qui l'écoutaient. Mais Jésus a pu répondre de façon à ce que c'était eux qui étaient confondus en fait dans leurs questions. Et par cela, beaucoup ont entendu cette parole et bien ils ont reçu cette parole. Nicodème sûrement était l'un d'eux aussi parce qu'il a entendu, il a vu ce que Jésus a fait, les paroles que Jésus a dites à toutes les occasions. Eh bien, Dieu a changé son cœur. Et donc, il n'était plus hostile, adversaire, et trouvait n'importe quel moyen pour confondre, mais plutôt, il était prêt à recevoir la vérité et la puissance de Dieu à travers sa parole. Et aussi par Jésus, donc par sa parole, mais aussi par les miracles. Il a démontré cette puissance par les miracles qu'il a accomplis. Donc, le miracle, le plus grand miracle encore, c'est lequel? Le plus grand miracle, c'est le salut, oui, mais c'est aussi la résurrection. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement inédit, parce que les gens ont vu des miracles à travers les siècles de leur histoire, surtout à cette époque-là. Donc, les miracles de Moïse, les miracles à travers le... la sortie d'Égypte, etc., donc les miracles. Mais la résurrection et sa résurrection lui-même, parce que Jésus dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». Donc ça c'est déjà, il pensait au temple de Pierre déjà, il pensait que c'était un mensonge, parce que c'est clairement impossible. Donc il pensait encore moins à la résurrection de son corps lui-même. Donc il a prédit la résurrection de son corps. Donc je meurs ce jour-là et je ressuscite trois jours plus tard. Et donc à moins que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui parle, effectivement ce serait un mensonge. Et donc ce serait impossible. Mais Jésus a pu démontrer par ses miracles qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, et par ça, donc c'est qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Justement, c'est ça ce que les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, etc., cherchaient à comprendre. Est-ce que cet homme est vraiment animé de l'Esprit de Dieu? Et si c'est le cas, comment est-ce que sa parole est tellement en contradiction avec ce que nous avons appris de la loi de Moïse? Et donc, il se posait cette question, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Ils lui ont posé même cette question à lui. Et donc, parce qu'ils ont dit, ça peut être que par l'Esprit de Satan qu'il fait ces miracles. Et donc, il n'y avait pas une réponse facile à cela. Donc, à moins d'accepter que c'est vraiment le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui, et c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers lui. Et donc, encore une fois, c'est la puissance de l'Évangile qui fait cela, qui rend cela possible. Et ce n'était pas seulement pour Christ lui-même, mais pour nous aussi, qui sommes disciples de Christ. Hein, parce que Jésus, vous souvenez ce qu'il a dit aux disciples, il faudrait encore de plus grands miracles que ce que m'avez vu faire. Parce que je serai à la droite du Père et que vous recevrez l'Esprit du Père. Et que cet esprit vous rendra capable de faire des œuvres encore plus grandes que celles-ci. Et donc, il n'y a pas de limite vraiment à ce que la puissance de Dieu peut faire en nous. Et donc, c'est vrai, quand on regarde avec nos propres yeux, on voit l'impossible. Parce que si on regarde nos propres moyens, notre propre, que ce soit individuel ou même collectif, hein, on voit l'Église aujourd'hui... En France et ailleurs, on voit qu'elle est très petite par rapport aux grandes structures qui existent, des lobbies de toutes sortes, etc., des organisations avec de très grandes influences et tout. Et bon, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le moyen de vraiment être opposé à la parole de vérité dans ce contexte. Mais sans cessant vraiment comprendre ce qu'est la puissance de Dieu. Une puissance qui se manifeste pas dans les forces apparentes, mais c'est dans la faiblesse et dans souvent dans le silence. C'est comme Jésus a utilisé une image qui est le grain qui tombe en terre. Il y a à moins qu'il ne meure, il ne portera aucun fruit. Mais ce petit grain, il tombe, il meurt, et puis tout à coup, donc c'est pas tout de suite, mais l'œuvre se fait et l'œuvre grandit lentement mais sûrement jusqu'à ce que devient un très grand arbre et tous les oiseaux du ciel viennent faire leur nid et s'y cacher et trouver refuge. Et donc, pensez à cela, même à l'œuvre individuelle que Dieu fait en vous, pas de la même façon que cette œuvre, ce grain de sénévé, c'est-à-dire qui grandit petit à petit, peut-être lentement, si on regarde autour de nous, mais faites confiance à Dieu, et il fera son œuvre, parfois même quand on ne le sait pas. Donc, une autre démonstration de puissance aussi de Jésus, c'est l'amour qu'il a pratiqué envers ses disciples. Vous savez, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le faire, ça ne peut venir que de la puissance de l'Évangile de Christ. On voit des exemples souvent, on dit, voilà, c'est vrai, une personne a sacrifié sa vie pour telle ou telle cause. Mais le faire avec animé de l'amour de Christ, c'est-à-dire non pas dans un geste de désespoir, mais plutôt un geste d'espoir, d'espérance, parce qu'on sait que Dieu, la puissance de Dieu, est souveraine sur toutes les forces du monde et tout ce qui peut être hostile à l'évangile de Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Ce n'est pas par désespoir qu'on peut le faire. On peut donner sa vie pour ses amis, comme Jésus l'a fait. Ce n'était pas par désespoir. Il a dit, je donne, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne moi-même. Et quand il est mort sur la croix, c'est lui-même qui a rendu l'esprit. Ce n'est pas les soldats qui l'ont crucifié. C'est lui-même qui a rendu l'esprit. Et il est ressuscité par le même esprit de Dieu. Et donc, l'amour qu'il a pratiqué envers ses disciples, qu'il a démontré pendant son ministère sur la terre, et aussi jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion, et jusqu'à la résurrection, eh bien, c'est fait par la puissance de l'Évangile, et c'est la puissance de Dieu qui fait cette œuvre. Et donc, encore une fois, cette puissance est donnée à chacun d'entre nous, et donc, de la même manière, de la même quantité. Ce n'est pas des quantités différentes que Dieu donne à chacun, mais c'est la même quantité. Dieu donne l'Évangile dans sa plénitude à chacun. Et donc, il ne peut pas être divisé. L'Évangile et la puissance de l'Évangile que Dieu nous donne n'est pas divisible en parts. Et Dieu la donne de la même manière à chacun parce que nous sommes tous membres du même corps, membres du corps de Christ. Et donc, il n'y a aucun membre qui a plus d'importance qu'un autre membre. Parce que Dieu nous a appelés à être membres de son corps. Donc, ça, c'est la puissance. Donc, là, on a vu vraiment ce que signifie le salut, qui était être appelé de la mort à la vie, un peu comme le miracle de la résurrection de Lazare. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est parce que tout à coup, on a compris des choses qu'on ne comprenait pas avant, mais c'est une résurrection d'entre les morts. Ensuite, Dieu nous donne la puissance par l'Esprit qui habite en nous. Et cette puissance est donc en nous pour qu'on puisse justement pratiquer ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et chacun de nous a des œuvres que Dieu a préparées pour lui, pour pratiquer tous les jours. Et donc, cette puissance que Dieu nous donne est celle qui rend cela possible. Donc, troisièmement, c'est l'Évangile universel. Donc, dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit bien que c'est pour le salut de quiconque croit. Juif, grec, à l'époque, c'était plus juif, grec, il y a beaucoup de grecs autour et romains, etc. Donc, c'est tous les peuples de la terre. Mais c'est pour le salut de quiconque croit. Et donc, c'est pourquoi nous sommes réconciliés avec Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est cette universalité de l'Évangile qui n'est pas justement comme les religieux de l'époque. À l'époque de Jésus, ils pensaient que c'était justement pour le peuple d'Israël. Et donc, ils attendaient tout simplement l'accomplissement de la prophétie du venu du Messie, puis le rétablissement du royaume terrestre, la nation terrestre d'Israël. Mais sans bien vraiment discerner la promesse que Dieu avait faite à Abraham bien avant Moïse, déjà, et qu'il allait faire de sa postérité une grande nation, plus grande en nombre que le sable sur les côtes des mers, et plus grande que les étoiles du ciel, etc. Donc, il faisait bien référence à toutes les nations et à tous les peuples de tous les temps. Et donc là, on voit encore l'universalité de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Et cette bonne nouvelle est pour tous les peuples. Le salut, donc, nous donne cette nouvelle vie et donc la manière dont nous partageons l'Évangile est aussi universel en soi. Et donc, on traduit la parole de Dieu dans toutes les langues, et ce qui n'était pas le cas, bien sûr, surtout dans le premier siècle, etc., où il y avait la traduction de l'Ancien Testament, la Septante, qui a été traduite, qui était une traduction de l'Ancien Testament en latin. Et donc cela a exposé justement beaucoup de peuples, parce que le latin était beaucoup plus parlé, bien sûr, que l'hébreu. Et donc exposé beaucoup de peuples à pour la première fois lire les textes de l'Ancien Testament. Et ensuite, avec plus tard tous les évangiles et toutes les épîtres du Nouveau Testament qui ont été écrites et ensuite traduites, bien sûr, dans beaucoup de langues. Et ça aussi, c'est par la volonté de Dieu que cela s'est fait, parce que l'évangile est universel, donc pour tous les peuples. Et de cet évangile universel, eh bien, Dieu a appelé un peuple vers lui. Et donc, comme la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et parfois, quand on lit la Bible en entier, eh bien, on se rend compte que l'évangile ne commence pas à Matthieu, Marc, Luc, Jean, il commence à Genèse, en fait. Et donc, c'est là qu'on voit l'évangile de Dieu, en fait, dans toute la Bible. Le premier chapitre d'évangile commence, de Genèse. Jusqu'au dernier chapitre, l'évangile continue. Et cette bonne nouvelle, donc, de l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, eh bien, on la trouve à travers toute la Bible, toutes les histoires. Et tous les textes, etc., les textes de loi, même Lévitique, quand vous lisez Lévitique, il y a tellement de lois cérémoniales, etc., tous les prophètes, eh bien, le message, c'est l'évangile. Et c'est là qu'on voit encore une fois que c'est un évangile universel, parce que Dieu a présenté ce message de multiples formes, plusieurs langues et de multiples formes. Tu vois, par le moyen, si on lit Lévitique, c'est le moyen cérémonial. Dans les prophètes, donc par les prophéties, dans les livres poétiques, par la poésie, les livres historiques, par l'histoire. Et donc, dans toutes ces multiples formes de présentation de l'Évangile, eh bien, Dieu l'a fait parce qu'il parlait à un peuple universel. Donc, il parlait à toutes les nations, ceux qui comprenaient toutes les lois cérémoniales, ceux qui comprenaient la poésie, etc. Mais parce que nous sommes en Christ et nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à étudier, à comprendre et à toutes ces formes de l'Évangile. L'Évangile dans toutes ses formes. Et donc, cela nous donne beaucoup de moyens, et souvent, peut-être quand vous rencontrez quelqu'un à qui vous voulez témoigner, et bien souvent, vous pensez, est-ce que je dois lire les psaumes, peut-être, ou est-ce que je dois lire l'évangile de Jean, ou l'épître, etc. Donc, on pense souvent à ces questions-là. Mais c'est vrai, ce sont de bonnes questions, parce que je pense que l'Esprit de Dieu doit nous guider dans ces situations-là pour présenter la parole de Dieu de façon la plus facile à comprendre, et l'évangile aussi de façon la plus facile à comprendre. Ce n'est pas forcément l'évangile de Jean ou le psaume, etc. Et donc, regarder la parole de Dieu dans toute sa richesse, utiliser la parole de Dieu avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que vous verrez que Dieu fait des miracles et que sa parole. C'est sa parole qui transforme, c'est sa parole qui édifie, c'est sa parole qui sauve aussi, qui appelle. Et donc, nous sommes simplement appelés à être des messagers de cette parole. Et pas seulement des messagers en transportant un message vers quelqu'un, mais nous sommes nous-mêmes des messagers, parce que l'œuvre que Dieu a faite en nous est elle-même un message, comme l'apôtre Paul dit, comme des lettres écrites, ouvertes. Donc nous sommes comme des lettres écrites, notre vie, comme une lettre écrite de Dieu au monde. Et cela se fait donc par notre vie quotidienne, tout simplement, comme on a dit, l'œuvre de Dieu qui commence avec un petit grain qui grandit et tous ceux qui sont autour de vous, eh bien, ils voient ces choses-là. Ils voient les petites choses qui eux-mêmes sont invisibles à voir, à remarquer, mais Dieu parle par ces choses-là, comme une lettre, encore une fois. Et il y a une constance, justement, entre les paroles et la vie. Et quand il y a cette constance, eh bien, le message devient vraiment un message de puissance. Parce que c'est ça qui manque souvent, n'est-ce pas? C'est entendre un message et puis un décalage complet avec les actions. Et puis, il n'y a pas de constance. Et donc, on se dit que ça ne peut pas être vrai. Donc, si ce message a cette puissance, donc il doit produire un fruit qui est constant avec cette puissance que l'Évangile présente. Donc il y a l'Évangile, il n'y a pas d'effort, ce n'est pas basé sur un effort, encore une fois, personnel, mais c'est simplement sur la transformation à l'image de Christ, de gloire en gloire. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 13, et je vais lire ce verset. Et c'est un verset, je pense que on peut même afficher chez vous si vous voulez. Mais moi, je le fais parce que j'aime bien ce verset dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Et justement, qui parle de ce que l'Évangile peut faire en nous. Et donc, je vais lire le verset 13. Dans le contexte aussi, il parle de Paul, des privations, de l'humiliation, etc., qu'il a lui-même vécu, où il dit, verset 12, « Je sais vivre dans l'abondance, et je sais vivre dans l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et ensuite, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est tellement vrai, parce que c'est vraiment l'Évangile là qu'on lit dans ce petit verset. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est le fruit de l'Évangile en nous. Il y a une transformation à l'image de Christ qui se fait de gloire en gloire. Et quelles que soient les conditions dans lesquelles on est, parce qu'il parle bien des situations un peu extrêmes, d'un extrême à l'autre, hein, dont l'humiliation, l'abondance, la disette, etc. Donc, tous ces extrêmes situations, eh bien, ça ne remet pas du tout en cause l'œuvre de Dieu en nous. Et si nous sommes dans une période difficile, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés ou parce que Dieu nous a rejetés ou est en colère contre nous. Ce n'est pas du tout ça. Si nous sommes dans l'abondance, ce n'est pas non plus parce que Dieu est tellement satisfait de nous qu'il nous a récompensés. Ce n'est pas du tout ça non plus. Parce que Dieu peut nous faire passer dans toutes ces situations. Pourquoi? Parce que les situations doivent changer, elles changent. C'est simplement les circonstances extérieures. Mais ce qui est constant, ce qui ne change pas, c'est l'Évangile de Christ en nous. C'est la puissance de Dieu en nous qui habite en nous. Et c'est pour ça que je puis tout par celui qui me fortifie, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans l'humiliation, que ce soit dans la faim, que ce soit dans l'abondance ou la disette, etc. Donc, toutes ces circonstances ne changent pas à l'œuvre de Dieu en nous. Et donc, il n'est pas nécessaire de se juger soi-même, dire est-ce que Dieu est satisfait avec moi si tout va bien dans mes circonstances, ou si Dieu n'est pas du tout, est en colère ou m'a rejeté parce que les choses ne vont pas bien, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans les circonstances autres, etc. Donc pourquoi? Parce que notre espérance doit être attachée, ancrée dans l'Évangile de Christ, qui est la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. Et Dieu, encore une fois, les paroles de Jésus, souvent, n'étaient pas clairement entendues par les disciples et par les autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient toujours aux circonstances. Alors que Jésus ne parlait pas du tout des circonstances, de leurs circonstances quotidiennes, il parlait d'autres choses. Et donc c'est à nous de saisir justement ces promesses, cette promesse de Dieu, parce que le salut lui-même est garanti par non pas par nos œuvres, mais par notre, justement, pour le don de Dieu, par la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Et par cela, donc, Dieu brise cette inimitié qui a été créée par le péché. Donc, cette inimitié qui nous a séparés de Dieu, Dieu l'a brisée et qui est la conséquence du péché. Et maintenant, Dieu, 2 Corinthiens 5, 19, il a dit, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Donc, non seulement il nous a appelés à être des messagers de l'Évangile, mais il a mis en nous le ministère de la réconciliation. C'est encore plus fort parce que ça veut dire que c'est comme ce que Jésus a dit à Pierre, qui a été interprété d'autre façon. Excusez-moi. Quand il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ne parlait pas du tout de l'interprétation de l'Église catholique, par exemple. Mais c'est la même façon. Il dit donc 2 Corinthiens 5, 19, il a mis en nous le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que nous sommes devenus des disciples qui font cette réconciliation. On appelle les autres vers Christ et ensuite vers la réconciliation avec Dieu. Et c'est un ministère vraiment très grand, très fort. Il n'y a pas de plus grand ministère quand on pense à ça. Ce n'est pas le ministère de... quel que soit les ministères, en fait, c'est le plus grand ministère. Donc, soyez bénis et que le Seigneur vous continue à vous équiper avec sa parole et continuez à grandir dans la foi parce qu'on peut tout par celui qui nous fortifie en Christ. Merci.